Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Made by Binge Audio.
Des morts en masse annoncées dans le monde entier. Peu d'interpellations et encore moins de condamnations. Des saisies apparemment inutiles et des marchés entiers qui vivent sur des crises. Des faux médicaments, il y en a. Des mortels, parfois. Mais il y a aussi des faux. C'est une guerre de concurrence qui se joue là. Pour faire tuer son chien, on dit qu'il a la rage.
L'enjeu pour l'industrie pharmaceutique, c'est pas de donner les meilleurs médicaments de meilleure qualité à tout le monde. C'est de vendre plus de médicaments et de faire plus de profit en vendant des médicaments. Et ça, quelles que soient les stratégies qui permettent d'y arriver, si ça suppose d'interdire l'accès à certaines molécules sur certains territoires, c'est ça qui va être choisi. Mais il y a des stratégies très claires de la part de certaines firmes de ne pas mettre à disposition des molécules de médicaments contre le cancer, par exemple, dans certains pays, parce qu'on sait que la base de consommation, l'assiette de consommation va être trop réduite pour que ce soit nécessaire ou intéressant de dépenser les frais qui vont permettre l'enregistrement, le marketing du médicament. Donc, c'est pas qu'ils sont très intéressés par la qualité des médicaments, c'est plutôt que c'est pas vraiment leur seul problème.
Street Médoc. Dans l'arrière-cour du Big Pharma. Mathieu Kay, chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'IRD, Institut de recherche pour le développement.
Quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait, dans toute cette histoire de médicaments, de faux médicaments et de qualité des médicaments, la majorité des acteurs s'intéressent assez peu à la production. En fait, la production, c'est pas une opération qui rapporte. En général, ça coûte assez peu d'argent, ça en rapporte assez peu. Et les acteurs les plus importants du marché, c'est pas les producteurs. Précisément parce que les producteurs, ils sont majoritairement maintenant basés dans des pays du Sud. Par contre, ce qui est important, c'est d'arriver à maîtriser les canaux de distribution des médicaments. Tous les enjeux que rencontrent aujourd'hui, que ce soit les firmes les plus riches, l'industrie pharmaceutique du Nord ou les acteurs de la distribution, c'est comment est-ce qu'on va faire pour contrôler où va un médicament, dans quel territoire il a le droit d'être vendu, qui a le droit d'y avoir accès, à quel prix. Évidemment, toutes les négociations, elles sont autour du prix du médicament. Il y a énormément de débats autour de ça et des autorisations de circulation. Et c'est ce que moi, j'ai appelé des régimes logistiques de la pharmacie. Et du coup, évidemment, ça, c'est un lien très fort avec le discours sur les faux médicaments. Parce que si vous arrivez à faire passer un médicament pour un médicament de qualité ou au contraire pour un mauvais médicament, vous prenez pouvoir sur sa circulation. En fait, c'est comme ça que vous obtenez les moyens de le vendre auprès d'un État, auprès d'un acteur de la distribution pharmaceutique. Et c'est ça qui est important à faire.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant d'arriver dans les marchés formels et informels en Afrique comme ailleurs, le médicament, depuis sa conception jusqu'à son absorption par un patient, va faire un long voyage, comme nous l'explique Pernette Bourdillon, analyste à l'OMS.
Il faut développer les produits chimiques qui vont dans la composition d'un médicament. Donc il y a les principes actifs, mais il y a aussi les excipients. Ça peut être fait dans un lieu, ça peut être finalisé dans un deuxième lieu, ça peut être vendu dans un troisième lieu. Et après, vous allez avoir les excipients qui sont mis dans un quatrième lieu. Produit fini, pareil, vous pouvez avoir différents stades de production du produit fini qui vont avoir lieu dans différentes usines, qui peuvent avoir lieu dans différents endroits. Le médicament peut ensuite être conditionné, c'est-à-dire l'emballage qui peut être fait dans différents endroits. Et après, vous avez tout un tas d'acheteurs, de brokers, etc., qui vont rentrer en jeu. Certaines de ces parties prenantes ne vont jamais toucher le produit de manière physique. Vous allez avoir un importateur, un exportateur. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va se porter en tant que broker. Et après, ceux qui vont commencer vraiment à toucher le produit de manière physique, vous allez avoir des grossistes. Vous pouvez avoir des hôpitaux ou des cliniques qui peuvent aussi revendre des produits de manière tout à fait légale. Hein. Donc, en fait, vous allez avoir différents niveaux de chaîne d'approvisionnement. Et dans chaque niveau de chaîne d'approvisionnement, vous pouvez avoir un secteur public ou un secteur privé. Et évidemment, vous pouvez avoir des échanges à chaque niveau, ce qui complique vraiment la donne. Il y en a vraiment dans tous les sens, parce que ça se revend aux uns et aux autres. C'est vraiment très, très compliqué. Et quand on commence à faire la cartographie de l'approvisionnement des médicaments en Afrique, ben on a l'impression de regarder un tableau d'électricien qui a bu la veille.
Un tableau d'électricien qui a bu la veille.
Une carte illisible brouillonne des trajets suivis par les médicaments à travers le monde. Et chacun va y tracer sa route. Et les plus gros laboratoires officialisent la leur en dénonçant celle des autres.
Michel Seba, directeur sûreté pour l'Afrique chez Sanofi.
Pour l'Afrique subsaharienne, tous les produits, même s'ils sont fabriqués localement, ont un flux particulier. Donc ils vont d'un pays particulier vers un autre pays. Si jamais ça sort de ce cadre-là, c'est suspect. Donc à partir du moment où c'est suspect, on se doit d'enquêter. Voilà. En résumé, si ça vient directement de Chine vers l'Afrique, c'est suspect. Si ça vient d'Inde vers l'Afrique, c'est à moitié suspect parce qu'on a aussi des usines Sanofi qui sont en Inde. Il faut pouvoir dire aux douaniers, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et puis après, si vous avez un doute, de toute façon, vous nous informez, puis après nous, on connaîtra la réponse.
Donc souvent, ce qui va rendre illicite tel ou tel médicament est le parcours qu'il a pris. Et même quand il reste légal, le chemin pris par le produit joue énormément sur ses prix d'un pays à l'autre. Jusqu'à en arriver à ces aberrations dénoncées par Safiatou Simpore, directrice exécutive de l'association suisse IOLSE. IOLSE prend un accès à l'innovation et aux technologies médicales dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne.
Il y a une étude commanditée par l'OMS qui montrait la disparité des prix entre les pays. Ça peut aller du double au triple. Et on a aussi constaté que les génériques étaient beaucoup plus chers en Afrique que dans les pays occidentaux. C'est un système, la pharma est très très puissante. Hein.
Le premier acheteur de grosses quantités de médicaments sont les consortiums d'ONG qui s'occupent d'une maladie en particulier, comme cela a pu être le cas pour le VIH au Kenya.
Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ces consortiums, dans le cas du VIH par exemple, ils sont évidemment très regardants sur les prix, ils n'ont pas des budgets illimités. Ce pourquoi ils ont poussé beaucoup, en particulier au moment de l'épidémie de VIH, enfin, quand ça a été très fort dans les années 90 et début 2000, c'était en faveur d'une fabrication à l'étranger dans les pays asiatiques et en particulier en Inde. Parce qu'en Inde, on avait des acteurs qui étaient capables de donner des gages de qualité en termes de production et en même temps des prix qui défiaient complètement toute concurrence.
La meilleure façon d'écarter la concurrence est donc de la rendre illégale sur un territoire donné. Tout va se jouer sur les autorisations. Le laboratoire Sanofi, en la matière, se montre très revendicatif.
C'est-à-dire qu'un médicament doit avoir une autorisation de mise sur le marché. S'il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, il n'a pas de raison d'être là. Et l'autorisation de mise sur le marché, c'est un dossier, qu'on appelle un dossier réglementaire, qui est très très pointu, qui est à la fois sur les caractéristiques du médicament, mais aussi sur les caractéristiques du packaging, de la leaflet qui est à l'intérieur. Ça, c'est vraiment très très précis.
Mais qui autorise ou interdit ? Tout se joue là.
Un pays peut avoir sa propre liste de fabricants autorisés. En général, c'est le cas. Donc, par exemple, au Kenya, on a une autorité de régulation qui s'appelle le Pharmacy and Poisons Board qui va faire des inspections régulières dans des firmes indiennes pour juger de la qualité. Voilà. Et donc, à l'issue de ces inspections, le Pharmacy and Poisons Board va reconnaître la firme X qui est dans l'état du Gujarat en Inde comme autorisée à vendre des médicaments vers le Kenya.
Un pays en voie de développement n'a cependant que très rarement la capacité technique ou administrative d'effectuer lui-même les contrôles permettant ces autorisations.
Une autre possibilité, c'est qu'un pays n'a pas les possibilités, n'a pas les moyens humains d'exercer ce contrôle, et dans ce cas, il va se référer à d'autres autorités. Ça peut être un accord avec une autorité européenne, ça peut être un accord avec d'autres pays de la même région, et dans ce cas-là, on va faire confiance à des autorisations qui ont été données par d'autres acteurs. Mais en gros, ce qui est central systématiquement, c'est l'autorité de régulation qui va aller, disons, exercer un contrôle, inspecter des firmes.
Et quand je dis inspecter, la pression sur ces autorités est donc immense. Des autorités qui, face au lobby, se montrent d'ailleurs assez peu autoritaires.
C'est des autorités qui vont être assez faibles, et ça, je pense qu'il y a une raison à ça, qui est qu'au fond, ce qui intéresse tout le monde, je veux dire mondialement, c'est de fabriquer et d'écouler des médicaments. Donc à partir du moment où ce qui est important pour tout le monde, que ce soit les grandes firmes, les petites firmes, c'est de vendre des médicaments, le contrôle, ça passe après.
Le jeu des pressions rend très mouvant la légalité de tel ou tel médicament. Encore une fois, le légal et l'illégal, ça va, ça vient.
Institutionnel reconnu, par exemple, une firme, elle peut disposer des autorisations à l'instant T, et puis elle peut les perdre à l'instant T plus 1. Ou inversement, on peut avoir un acteur qui fait des médicaments de mauvaise qualité pendant longtemps et reconnu comme tel, enfin jugé comme tel par les acteurs de la régulation, et en fait, ils font tous les efforts qu'ils peuvent pour fabriquer des meilleurs médicaments. Et le problème de la, disons, de la porosité des marchés, c'est celui-là, c'est celui d'une dynamique entre des acteurs qui sont toujours en train de passer d'un statut à l'autre par le biais à la fois de leur propre stratégie pour essayer de faire soit de meilleurs médicaments, soit de faire plus d'économies ou d'être prêt à bargainer sur la qualité, soit parce qu'il y a des pressions qui sont exercées pour faire passer un acteur qui produit des médicaments de qualité et légitime pour un acteur qui produit des médicaments de mauvaise qualité. On a un marché formel et un marché informel dont les frontières sont sans cesse disons mouvantes et redéfinies. Et du coup, bah oui, des médicaments qu'on retrouve à la fois sur le marché formel et sur le marché informel.
Donc, il s'agit de jouer sur les autorisations. Comme ça change souvent, chez Sanofi comme pour les autres grands laboratoires mondiaux, on prend en charge la formation des autorités de contrôle de chaque pays.
Moi, je crois particulièrement à cet axe de communication, de prévention, de sensibilisation. Mais on fait aussi pour les professionnels de santé en Afrique, on fait aussi pour les douanes, pour toutes les forces de sécurité. On les forme, on parle de nos produits. Alors, on le fait généralement avec d'autres laboratoires. On le fait avec d'autres. On parle de nos produits et on parle de nos flux. Sous-entendu, voilà, si vous trouvez un médicament Sanofi qui vient de là, qui arrive là, voilà, c'est suspect. Donc dans ces
le général Galyark Damham, ministère de la Sécurité et de la Protection civile du Togo, explique comment il effectue ses contrôles et sur quels critères.
Les services de répression sont de notre compétence et ces services, de temps en temps, font des saisies. Ils font des saisies sur les marchés de Lomé, ils font des saisies au port autonome de Lomé et à l'aéroport. Souvent, la plupart des médicaments qu'on appelle les produits pharmaceutiques contrefaits ou illicites arrivent dans les conteneurs. Ces médicaments sont fabriqués dans les pays asiatiques, sont déversés dans nos marchés ou arrivent par des frontières terrestres.
Laboratoires et autorités de répression travaillent en synergie, comme on dit aujourd'hui.
Parce que ça nous permet de faire le mapping des acteurs de ce trafic, de ce crime pharmaceutique, de remonter les réseaux, de voir quelles sont les connexions internationales, c'est-à-dire de la unité de production des faux médicaments vers la distribution dans les pays émergents, en sachant qu'il y a deux pays majeurs dans la production de faux médicaments, sont l'Inde et la Chine. Donc voilà, ça c'est important, le premier, de faire le mapping de la menace, le mapping des acteurs.
Le mapping de la menace est relativement simple à lire. Les firmes qui produisent des médicaments à faible coût sont suspectées de crimes pharmaceutiques. Le spécialiste de la grande criminalité, Fabrice Rizzoli, voilà un contre-coup de la stratégie choisie par le Big Pharma ces dernières décennies. Celle de la délocalisation.
Il a fallu qu'il rentre dans le marché mondial de la délocalisation. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, tous nos grands laboratoires, qui fabriquaient pas mal de médicaments dans les pays, voilà, chez eux, etc., ont tous ouvert leurs usines en Chine et en Inde. L'idée était, encore une fois, de baisser les marges de production, de payer des ouvriers au lance-pierre et que les médicaments partent d'Inde ou de Chine. Entendu qu'en plus, on rentre dans un commerce mondial dit la mondialisation économique, qui est basé sur le transport maritime, qui coûte rien. C'est aussi pour ça qu'on peut à la fois délocaliser, payer moins cher les ouvriers, mais en plus faire revenir le produit manufacturé en Europe et que ça coûte trois fois rien.
Mais avec les savoir-faire ainsi acquis, les pays comme la Chine et surtout l'Inde se sont mis à produire des génériques de qualité à des prix imbattables. Tout l'enjeu des grands labos internationaux est donc désormais de les sortir du circuit légal. Il y a pour cela plusieurs méthodes.
Karine Baxer.
Sur le plan du médicament, on observe au niveau international une très forte augmentation de la régulation sur les questions de qualité. De qualité du produit, de qualité objective. Donc ça se durcit. Et il est sûr qu'autour de la qualité, ce ne sont pas que des enjeux santé publique, mais aussi des enjeux économiques, d'augmenter cette qualité du médicament.
Dans le discours des Big Pharma, un médicament indien est presque systématiquement dénoncé comme étant de qualité inférieure. Il suffit pour cela d'exercer du lobbying pour imposer des standards très particuliers afin de prendre le monopole sur le marché. Le chercheur à l'IRD Mathieu Kay parle de racisation du médicament.
Il y a une racisation du médicament, il y a une ethnicisation du médicament. Parler de médicaments pour les patients kényans, c'est faire des distinctions tout le temps entre les médicaments indiens, les médicaments européens ou américains, les médicaments kényans.
Une hiérarchie subjective, plus ou moins factice, se met en place. C'est une arme utilisée dans cette guerre de concurrence entre les producteurs des pays considérés comme la pharmacie du tiers-monde, l'Inde et la Chine, et le Big Pharma.
En fait, c'est vraiment la question de mettre le doute sur le consommateur sur certains produits et puis donner la confiance sur d'autres produits.
Parce que de culture plus libérale, les marchés des pays africains anglophones restent bien plus ouverts que ceux des pays francophones. C'est donc par eux que des contrebandiers font transiter de vrais médicaments vers des pays voisins où ils vont devenir administrativement de faux médicaments.
Le Nigeria, qui représente la destination finale de 35% de ses saisies, est considéré comme étant la principale porte d'entrée des faux médicaments sur le continent, avec près de 1400 points d'entrée illégaux.
Le général Galyark Dam Ham est bien conscient de cela.
Beaucoup de saisies sont faites au niveau du port. C'est-à-dire quand on découvre que c'est des faux médicaments, on ne cherche pas à savoir c'est pour quel pays. Parce que nous disons, si on nous dit par exemple c'est pour le Niger, on laisse aller au Niger, ça peut se retrouver ici. Donc par exemple pour 2019, pour vous donner une idée de l'ampleur de ce trafic, pour 2019, hein, toute l'année 2019, il y a les saisies qui sont effectuées chez nous ici. Vous avez au moins 16 974 tonnes de faux médicaments. Donc les services de répression ont comme mission, je ne dirais pas de faire la chasse, mais de saisir ces médicaments. Et nous trouvons toujours une date symbolique, le 26 juin, qui coïncide à la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic des drogues pour les détruire.
Monsieur le ministre, la plus grande question qui se pose quand on évoque à chaque fois les questions des médicaments qui sont vendus sur les marchés illicites, comment se fait-il que ces médicaments arrivent quand même sur le territoire?
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des médicaments qui arrivent dans les conteneurs pour les pays de l'Interland. On vous dit, voilà, des conteneurs de produits pharmaceutiques pour tel pays qui est à l'intérieur, en Afrique de l'Ouest. Mais vous pouvez retrouver les mêmes médicaments dans nos marchés. Vous pouvez retrouver les mêmes, vous savez, nos frontières sont ce qu'elles sont.
Des médicaments interdits de vente au Togo ont cependant l'autorisation d'y transiter pour alimenter l'intérieur du continent où ils sont légaux. Des réseaux illégaux togolais en détournent une quantité pour leur marché parallèle. Licite là-bas, illicite ici, tout se joue au moment des autorisations. Et elles sont décidées par des organisations fragiles, aux faibles moyens, donc très sensibles aux pressions des lobbies.
C'est précisément parce qu'en fait, les industriels savent bien que tant qu'ils arrivent à noyauter l'OMS, ils y vont, mais ils savent que ça a une limite, et dans ce cas-là, il faut passer par d'autres acteurs, et typiquement Interpol ou l'Organisation mondiale des douanes.
Les structures de contrôle se fient à la seule réglementation.
Parler de faux médicaments, c'est un peu parler d'un problème, on parle d'une cause sans adversaire, c'est-à-dire que tout le monde est contre les faux médicaments. Donc quand l'OMD, quand Interpol arrive en disant « on vient de saisir 3 millions de doses de faux médicaments », tout le monde applaudit des deux mains, et donc ça, c'est plutôt dans le sens de l'intérêt des organisations de participer à ce travail.
Ceci n'est pas un feu de brousse comme il est de coutume en cette période dans la région de l'Ouest, mais plutôt une destruction d'une cargaison de faux médicaments évaluée à plus de 80 millions de francs CFA en provenance du Nigeria voisin.
C'est une manière de mettre en scène l'autorité, tout simplement, en disant on tape du poing sur la table, on va plus faire de cadeaux aux trafiquants, on va se battre. Encore une fois, c'est un problème qui n'a pas d'adversaire. Je veux dire, tout le monde est contre les faux médicaments. Donc pour un gouvernement, dire à partir d'aujourd'hui, je me battrai pour ma population contre les faux médicaments, c'est assez facile. Et mettre en scène, comme on l'a vu au Kenya, on va faire brûler des cartons de faux médicaments, qui eux-mêmes sont des faux cartons de faux médicaments, parce que heureusement qu'on ne fait pas brûler des cartons de médicaments en plein air, ça ne serait pas super bien vu du point de vue environnemental. Il y a un intérêt qui est très fort et qui est un peu sous-estimé. C'est aussi que jouer ce discours d'autorité, c'est un signal pour les investisseurs, pour les firmes, de leur dire « on reconnaît vos intérêts, on reconnaît la propriété intellectuelle ». Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup entendu au Kenya, où ils avaient créé une agence anti-contrefaçon, dont je ne sais pas trop quelle est l'activité aujourd'hui, parce qu'elle est assez maigre. Donc là, c'est là qu'on rejoint aussi ce côté très infrastructurel et économique. En fait, ce qui gouverne ces politiques derrière, c'est pas uniquement ça, mais aussi. Mais à l'époque, le but principal, c'était de dire « on est un pays dynamique économiquement, venez investir chez nous, n'ayez pas peur, vos droits seront respectés ».
La lutte contre les faux médicaments est pour Mathieu Kay une cause sans adversaire. Un moyen d'affaiblir la concurrence qui elle-même se retourne vers le marché illicite pour se développer.
Une cause sans adversaire.
Mais la guerre de concurrence qui se joue en Afrique est à l'origine d'un autre problème qui amplifie le phénomène du marché parallèle. Il y a quelque chose que ne doit pas cacher la cause sans adversaire. C'est la triste réalité des maladies sans traitement.
Les gens, dès qu'ils apprennent qu'ils ont un cancer, ils commencent à pleurer parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés. Ils n'auront pas les moyens de s'acheter des médicaments.
Thank you.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.